Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes. Divergence numérique, Gilles Gouget dans le micro, Pascal Rullier de l'autre côté de la vitre.
Bonsoir à tous et à toutes.
On est ensemble pour bien notre heure hebdomadaire pour parler évidemment de l'actualité au travers de la revue de presse de l'April qui nous emmènera avec la voix d'Emmanuel Charpentier, Luc Fievet sur des articles qui parleront de diverses choses qu'on vous détaillera dans un petit instant. Et nous aurons un invité ce soir, Pascal.
Oui, nous accueillons Mathieu Lafourcade, maître de conférence à l'Université Montpellier 2 du LIRMM, pour nous parler du projet Jeux de mots. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et puis, pour autre chose, ce sera la musique, évidemment, de la musique libre, comme de bien entendu, avant de se quitter avec le traditionnel, incontournable et international agenda du libre.
Oui, les agendas du libre, puisque nous sommes écoutés sur les ondes de Radio Escapade 103.3, 104.1, et puis aussi sur les ondes de CKIA FM au Québec 88.3. Bonjour à tout le monde.
Et on salue tous les chums geeks qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Et les blondes aussi. Ouais,
et n'oublions pas aussi les blondes de Belgique, avec nos nets auditeurs très fidèles, comme Robert par exemple, ou d'autres qui rejoignent donc l'émission sur nos sites respectifs.
Avant de détailler toute la suite, une petite virgule pour les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Et oui, nouvelles du front, comme d'habitude, avec la revue de presse de l'April, l'association pour la promotion du logiciel libre, semaine 11, avec Emmanuel Charpentier et Luc Fievier, et quelques petites nouveautés d'ailleurs.
Et quelques petites nouveautés, on parlera d'articles divers publiés sur Numérama, développé.com, lemagité.fr, Clubic ou Webdo. Attention, tenez-vous bien, c'est parti.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 12, année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, tu as ton propre micro.
Eh oui, on va pouvoir s'interrompre, ça fera pas de mal.
Voilà, on va pouvoir se couper la parole.
Ouais, on va pas se gêner.
Quoi de neuf donc?
Donc,
on va pouvoir se couper la parole.
Petite revue de presse cette semaine. 6 articles seulement, on va parler de beaucoup de Google, donc c'est pas forcément mal, ils font des bonnes choses. On va parler du code source d'Android, on va parler de Bitcoin, une implémentation pour faire du paiement décentralisé, et de Firefox et Google Chrome. Et derrière ça, on va parler de...
De la FUL. La FUL qui donc appelle à utiliser Firefox. Également de données publiques, et pas nécessairement libres. De censure de Tor. Et pour finir, un peu de Tunisie. Donc premier article, Numérama. Google reporte l'accès au code source d'Android. Un coup de canif pour l'open source, point d'interrogation, par Julien L.
Et oui, un article qui reprend beaucoup de choses dont on a déjà discuté sur le code source d'Android. Et il y a des briques de logiciels qui sont inclus dans les nouvelles versions d'Android, la version 3.0, Honeycomb, ça doit vouloir dire c'est rayon de miel, quelque chose de ce type-là. Et bien, tout simplement, le logiciel est pour l'instant propriétaire, et il n'est pas question de le mettre en libre dans l'immédiat, et ça fait jaser les articles et les journalistes.
Donc voilà, l'article explique que Google pourrait très bien... Google dit en fait qu'il n'a pas fini le boulot, et qu'il reste encore des tas de choses à finir sur le système d'exploitation, et qu'ils veulent le diffuser qu'une fois que ce sera terminé. Mais bon, l'article fait remarquer qu'on peut tout à fait diffuser un logiciel pas fini, c'est même un peu le principe.
Alors, ils ont un autre argument en plus de ça, c'est de dire que là, c'est la version 3.0 qui est destinée aux tablettes. Et donc, avec toute la pub qui est faite sur les iPad 1, iPad 2, ben là, ils vont sortir des nouvelles tablettes, et ils favorisent les constructeurs qui sont associés à Google, qui peuvent avoir accès directement au nouveau système d'exploitation.
Voilà, c'est le sens que eux ils trouvent là-dedans en disant bah oui, s'ils diffusent pas, c'est pour que les entreprises qui vendent des tablettes qui utilisent Android puissent faire rentrer de l'argent.
Et que les gens qui ont des téléphones ne puissent pas pour l'instant facilement installer cette version 3.0 parce que sur téléphone c'est supposément très mauvais, ça va pas fonctionner, c'est pas fait pour. Alors article suivant, article développé.com, Google sort une implémentation Java open source de Bitcoin, le protocole décentralisé de paiement électronique en pair à pair, en peer-to-peer, on va dire. Donc un article de la rédaction sur un nouveau système monétaire, Luc.
Oui, un réseau d'échange monétaire, donc, parce qu'on peut inventer des systèmes sans avoir derrière de réseau particulier. Donc c'est du peer-to-peer, donc ça c'est très très bien. C'est quelque chose qui a été fait par ces fameux 20% de temps libre des employés Google.
Et oui, ça fait du bien. On peut voir que les employés peuvent utiliser une journée par semaine à travailler sur les projets de leur choix.
Toi, tu t'es penché sur la question Bitcoin, tu sais à peu près ce que c'est.
Alors, il y a tout un algorithme derrière. C'est la capacité, on utilise son ordinateur pour générer des Bitcoins. Et on peut passer du temps, c'est du temps machine, du temps de son électricité, et on en génère un certain nombre. Par contre, la petite astuce, la petite particularité, c'est qu'il n'y en a que 23 millions en tout qui peuvent être générés. Et donc, quelque part, c'est une machine à déflation, parce que ce qu'il est prévu aussi, c'est que ces bitcoins, une fois qu'ils ont été générés, donc c'est évalué que ce sera dans les années 2020, eh bien, on ne pourra plus en créer de nouveaux, bien sûr, mais on pourra diviser les bitcoins existants. Donc, à vos ordinateurs, n'hésitez pas à en créer un dès maintenant, parce que peut-être que votre bitcoin aujourd'hui, sur les 23 millions, eh bien, si tout le monde commence à les utiliser, dans 10 ans, ça vaudra l'équivalent de, je sais pas, 1 million de dollars. Aujourd'hui, l'échange, c'est un bitcoin est égal à 1 dollar à peu près.
Donc, ça ressemble un peu à une grosse machine à faire fortune sur le dos des autres, non ?
Ouais, je sais pas encore, on va voir, mais en tout cas ce que je sais, particulièrement derrière ça, c'est que bah, y a des boîtes comme Google qui commencent à s'y intéresser, ce qui est pas trop mal.
Ouais, ce sera pas la première fois qu'une grosse entreprise fait de l'argent facile avec la finance.
Et oui, pourquoi pas, mais bon, ouais, c'est un peu le jeu, mais il y a aussi des associations qui sont intéressées au truc. Je sais que la FSF notamment essaye de l'utiliser pour des paiements, et il me semble qu'il y en a d'autres, peut-être même Wikileaks essaye d'utiliser ce genre de système de paiement. C'est pas facile de le répercuter dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, si on peut l'utiliser dans certains systèmes virtuels sur le net, c'est peut-être déjà un bon début.
Développé.com, l'AFUL appelle à utiliser Firefox 4 et affirme que Google Chrome n'est pas un logiciel libre, donc un article de la rédaction.
Donc c'est un petit article qui profite du fait que Firefox 4 vient de sortir, et je vous recommande à tous d'aller le télécharger et de l'utiliser, il est vraiment pas mal, et qui met en avant le fait que le contexte est particulièrement concurrentiel. Firefox 4 a doublé Internet Explorer en part de marché depuis assez peu de temps, mais de manière absolue. Et là, moi j'applaudis, j'adore, j'ai levé les bras au ciel quand la nouvelle est tombée. Et là, y a un autre contexte un peu concurrentiel, c'est que le concurrent majeur qui est en train de se développer, c'est Google Chrome.
Avec une situation assez ambiguë, puisque Google finance Firefox, donc ils sont en train de monter un concurrent à Firefox qu'ils sont en train de financer.
Oui, hein, il faut avouer que, et là c'est pas juste un petit peu d'argent, c'est des millions de dollars qui sont donnés de la part de Google vers Firefox.
Alors l'AFUL profite de la sortie de Firefox pour appeler à l'utiliser, et profite aussi de l'occasion pour taper sur Google Chrome, qui a le vent en poupe, hein, qui monte à toute vitesse, pour rappeler que ce n'est pas un logiciel libre, et pourtant c'est gratuit.
Eh oui, c'est gratuit, c'est même presque libre, en tout cas il y a une version qui est libre, qui est plus facile à utiliser, plus facile à installer je trouve, c'est Google Chromium, qui est la version débarrassée des quelques éléments en plus. Donc on a regardé tout à l'heure, hein, les éléments en plus, c'est Google Chrome inclut notamment des fonctions de mise à jour automatique. Quand vous l'installez sur votre système d'exploitation, Google Chrome va se mettre à jour automatiquement au cas par cas. Google Chromium ne le fera pas. Donc ce genre de différence, qui est la différence la plus marquante, fait que effectivement Google Chrome n'est pas un logiciel libre d'un point de vue technique. Maintenant, est-ce que la différence est si énorme que ça? Je vous laisse juger.
Bah Firefox quand même, on a le code source, tout ça.
Ah ben Firefox, on a le code source. Ceci dit, Firefox, ils utilisent d'autres arguments, qui est qu'ils contrôlent le nom de la marque Firefox, et le logo, le petit renard, alors panda roux, d'un point de vue technique, et ils l'utilisent pour dire voilà, vous n'avez pas le droit de le modifier, ou en tout cas, si vous le modifiez, vous n'utilisez pas notre nom.
Ouais, il est antécédent de ce côté-là.
Et oui, moi, sur ma Debian, j'utilise pas Firefox, j'utilise un petit outil qui s'appelle Ice Weasel, un jeu de mots, hein, si vous arrivez à le défaire, comprendrez assez rapidement, qui est Firefox, mais rebrandé. Enfin, on a enlevé la marque, on a enlevé le logo, on a mis autre chose à la place. Simplement parce que Debian voulait faire des petits patchs, des petites modifications, ce que Firefox n'aime pas trop à l'origine. Bon, c'est pas très grave, hein, entre nous. Mais justement, la FUL, là, bon, ils y vont un peu fort.
Hein. Ils ont quand même utilisé, en gros, le nom de la marque pour empêcher les modifications, quoi.
Exactement. C'est un peu l'idée du truc.
Bon, ceci dit, l'immense majorité des logiciels libres ont une marque qui est verrouillée et avec laquelle on fait pas ce qu'on veut.
Et c'est le cas pour beaucoup. Hein. Il y a eu des logiciels comme ça avec Oracle. Hein. Quelques gens qui ont voulu faire des forks, bah, ils n'ont pas pu se barrer comme ils voulaient. Il y avait le nom de la marque qui restait chez le producteur d'origine et qui reste dans ses mains. Hein. C'est le droit
ça, c'est vrai, mais même sur des logiciels tenus par des communautés, enfin, ce n'est pas propre aux propriétés. Enfin.
C'est tout à fait le cas. Il y a très peu de noms qui ne sont pas protégés par la marque. Je crois même que Linux est conservé par Linus Torvald. La marque lui a été accordée il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années. Et il y avait eu des problèmes, des cas où les gens avaient été prendre la marque à leur nom, alors qu'en fait, il n'y avait aucun lieu. Enfin bon, c'est pas très très grave. Le droit des marques, c'est un droit pourri de toute façon.
Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de Firefox 4 tant qu'on y est ?
Eh ben, Firefox 4, donc allez l'installer. Il est particulièrement joli. Il s'installe, bon, c'est un bonheur, et il est très très rapide. Il n'est pas aussi rapide que Google Chrome, il faut avouer ce qu'il est, mais il a un autre avantage, c'est qu'il est très très personnalisable. Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'extensions. Je vous recommande de fouiller un petit peu dedans. Il y a aussi des personas, donc des comment t'appellerais ça, des thèmes ?
Oui, des thèmes. Alors, bon, il n'est peut-être pas aussi rapide que Chrome, mais en tout cas, il a fait de très gros progrès, notamment avec l'utilisation de la carte graphique. Oui. Pour calculer tout ce qui est affichage, etc.
Et oui,
après ça, bon, voilà, dans toute la campagne de pub de Chrome, il y a un petit peu de mauvaise foi, parce que, bon, effectivement, un navigateur va afficher des informations plus ou moins vite, mais les informations, il faut quand même les télécharger depuis Internet, et ça prend du temps.
Et c'est ça qui prend... Généralement, c'est la latence qui prend le plus de temps. Bon, il faut avouer que Chrome est un petit peu plus rapide sur le JavaScript, donc les choses un petit peu qui bougent sur l'écran, mais entre nous, c'est pas un argument si phénoménal que ça, surtout quand on compare avec l'autre concurrent qui est Internet Explorer et qui, lui, est vraiment à la ramasse.
Il paraît que la version 9 revient dans la course. Mais bon, voilà. Alors, autre chose intéressante sur Firefox 4, par contre là c'est une moins bonne nouvelle, c'est que bah, ça a été douloureux pour l'accouchement, a été long et pénible.
Eh oui, mais je crois qu'ils ont parlé de changer un petit peu de système de sortie pour avoir des sorties un peu plus fréquentes, hein, parce que là, trop de temps entre deux sorties, on le sait, hein, c'est pas nouveau.
Il y a eu
des
tas de versions bêta, des tas de...
Des release candidates, voilà. Des choses comme ça. Ouais. Non, là, il faut vraiment... Je crois qu'ils sont dans l'optique de sortir une version majeure tous les ans. Je crois que c'était l'ordre de grandeur, éviter des grands sauts de cet ordre-là, parce qu'on sait que ça bloque. Bah, Linus Torvald, il a décidé d'arrêter les grands numéros de version. Maintenant, on est à la version 2.6.38, et à chaque fois, il ne fait que changer le sous-nombre, donc 2.6.40, 0.42, 0.44. Il a décidé, et voilà, on en a marre des gros sauts, on préfère des petits sauts un peu plus fréquents, c'est plus pratique à gérer, et globalement, tout le monde s'y retrouve.
Donc, article du MagIT. Data Publica, ouverture de la première place de marché de la donnée en France. Donc ça fait écho à tout ce qu'on a pu dire sur l'open data.
Auteur, pardon. Cyril Chausson, quand même.
Excusez-moi, Cyril Chausson, je suis désolé. Donc oui, ça fait écho donc, à tout ce qu'on a parlé sur l'open data.
Donc, le fait que les données des administrations publiques et de l'État soient accessibles des citoyens ?
Tout à fait. Donc Data Publica, c'est une boîte qui a été montée donc, par François Banchillon, qui est donc l'ex-PDG de Mandriva. Donc l'article fait un petit peu publicité quand même, hein, faut l'avouer.
Oui.
Mais il est intéressant parce qu'il annonce le développement de ce truc-là, qui est une sorte de structure assez nouvelle. Donc l'idée, c'est de faire une place de marché. Donc il y a tout un travail de mise en forme, de collecte et de mise en forme de l'information. Et après ça, des outils pour les vendre en rétribuant les gens à qui elles appartiennent. Donc il n'y a pas que de l'information publique, ils veulent aussi proposer ça sur de l'information privée. Donc voilà, donc une initiative assez originale.
Bon, on va voir ce que ça donne.
Alors oui, mais moi j'ai une grande théorie hein, qui selon laquelle l'information en elle-même n'a pas de valeur, elle a un coût, hein, mais pas de valeur. Et ce qu'on paye, c'est le service qui permet d'acheminer cette information. Donc en fait, c'est ça qu'ils font. Ils disent que c'est une place de marché, mais ils sont quand même là pour mettre l'information en forme et pour la rendre visible, puisqu'il va y avoir un lieu central, et il y a des moteurs de recherche et des tas de trucs comme ça. Et c'est tout ce boulot-là qui donne de la valeur à la donnée. Et la donnée en elle-même... Enfin, voilà. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne.
Le mouvement Open Data a l'air de faire des émules. Beaucoup, beaucoup de municipalités s'y intéressent. Les États s'y intéressent. Je pense que, ne serait-ce que pour ça, on va en entendre parler de plus en plus. Article clubic.com. Censure. L'Iran obtient le blocage de Tor de Olivier Robillard. Alors, c'est quoi Thor?
Alors, c'est une divinité.
Non, plus sérieusement.
Alors, Thor, donc, c'est une histoire d'oignon, en fait. C'est un réseau d'anonymisation pour aller sur Internet, dit en oignon. Donc, le logo, t'es un petit oignon.
Oui, hein, et ce petit logiciel a l'air d'être très utilisé dans les pays en ce moment en révolution, parce que justement, on a besoin de ne pas montrer qui on est. Et manque de bol, il semblerait que l'Iran a trouvé le moyen, au moins de manière temporaire, c'est ça la bonne nouvelle qu'on a découvert dans un autre article, c'est à trouver le moyen de bloquer Thor, de bloquer les accès à cette couche d'anonymisation.
Donc ils ont bloqué, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pu identifier qui l'utilisait, mais le simple fait qu'ils aient réussi à le bloquer, a priori, est une prouesse technique assez importante. Il semblerait, donc, selon Numérama, que le projet Thor a modifié son fonctionnement et qu'en gros, ils ont très rapidement réussi à contourner ce blocage, mais en tout cas, voilà.
Oui, ils auraient utilisé du DPI, Deep Packet Inspection. En gros, c'est le facteur qui ouvre les paquets, qui regarde ce qu'il y a dedans et qui jette quand ça lui plaît pas. Donc, tout ce qui ressemblait à Thor, hein, ils avaient tort, hein, ils ont été jetés. Mais éventuellement, les gars qui font le réseau, bah, c'est des petites lumières. Hein, et ils ont réussi à modifier un peu la signature du logiciel pour ne plus être découvrable et pour passer au milieu du reste du réseau. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout est revenu en ordre. Donc là, c'est de l'article de Guillaume Champeau. L'Iran aurait réussi à bloquer à tort, mais provisoirement. Alors, dernier article WebDo. Hillary Clinton, un peu pour la Tunisie et beaucoup pour Nesma et Microsoft, de Rafik Werchefani. Donc un article qui explique pas mal de choses, mais j'ai pas tout compris, ça me semblait être pas mal du soap opéra. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Alors déjà, ça se passe en Tunisie, c'est important. Donc je vais pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué, mais en gros on a plusieurs acteurs. Donc Nesma, c'est une chaîne de télévision privée, manifestement. Et selon l'auteur de cet article, donc il y a eu une visite d'Hillary Clinton en Tunisie. Et l'auteur de cet article explique qu'il y a des sortes d'amitié, de liens assez bizarres entre le Premier ministre par intérim et cette chaîne de télé, c'est-à-dire que son responsable de la communication est l'ancien directeur de cette télé. Ce Premier ministre par intérim ne passe que sur cette télé. Hillary Clinton est venue passer sur cette télé. Et en fait, pendant la conférence de presse, ça a parlé beaucoup de Microsoft et d'accords qu'ils ont passés avec des banques et des choses comme ça. Et il s'avérait que la dernière personne qui a posé une question est la femme du directeur actuel de cette télé, qui, par le plus grand des hasards, travaille pour Microsoft Tunisie.
Mais c'est pas la responsable de Microsoft Tunisie, d'ailleurs?
Ah oui, bah tiens, oui, moi je pensais que...
Assez voilà. Bizarrement. Bon. Moi j'adore la dernière phrase, hein. Il est à noter en rouge que Clinton semblait être la seule sur le plateau intéressée par la révolution tunisienne et l'avenir démocratique de la Tunisie. Oui, hein, ils ont beaucoup parlé de coopération, mais surtout de coopération avec Microsoft, c'est ça?
Semblerait.
Eh bien, la semaine prochaine, Divergence.
Ouais, salut.
Liberté, égalité, fraternité.
Et oui, on voit bien que la collusion et les conflits d'intérêts sont tout aussi présents en Tunisie que partout ailleurs.
Une revue de presse que vous retrouvez sur april.org et puis sur dogmazic.net. Merci à vous, Emmanuel et Luc.
Voilà, peut-être notre invité à une réaction, peut-être à chaud, à faire à ce dernier article de la revue de presse.
Oui, alors ça a l'air d'actualité, mais bon, je ne m'attendais pas à Microsoft en Tunisie. Voilà.
Mais ils sont partout. Un petit peu de musique, qu'avons-nous, Pascal, cette semaine à faire découvrir à nos auditeurs divergents?
Un artiste montpelliérain, hein, oui, je pioche dans la proche banlieue, j'allais dire, de Montpellier, Juxbox, qui nous fait de la musique en licence Open Music, licence couleur green, une sorte de GPL dérivé, mais pour la musique, une licence draft d'ailleurs de 2001, qui n'a pas beaucoup bougé, et qui représente 0,2% des morceaux de musique sur Dogmazic. C'est du rap de Montpellier, et c'est donc en licence ouverte, allez-y.
Cet âge partiellement plongé dans une sorte de pudendice. Ni loi ni ordre social ne prévalait. Les faibles étaient la proie des forts. Et
les hommes vivaient dans la crainte des uns des autres.
J'ai pris conscience la première fois que je posais que c'était ce qu'il me fallait, que j'y étais destiné. Je transmets des émotions au lieu de les refouler. J'ai mis mes tripes dans le son, donc j'espère tu vas kiffer. Avec une putain de prod, j'espère que je vais bien kicker. Au moins je l'aurais fait avant de vous quitter. J'ai pris conscience qu'il n'y a rien à gagner, tout à perdre. J'ai pris confiance, mais je m'enracine comme un cèdre. J'ai appris la patience, mais sous la tente toujours je cède. Je suis pas fait pour ce monde, mais heureusement je le sais. Malheureusement, ma plume saine, j'en suis conscient. Et ça me peine, ça me freine, car aucune de mes lignes est saine. Je voudrais écrire autre chose, mais le mal rentre en scène et s'infiltre dans mes pros. Sur un conscient, à haute dose, toujours constant. Quand je pose, jamais absent pour la cause. Dans mes rêves, je vois ce monde et moi en osmose. Vérité, mais laquelle est la vraie? Je suis coupable de ton péché, j'attends le Dieu qu'il est la vraie. J'ai une prise de conscience, au micro je te fais une prise de bon sens. De mon sang, j'ai ouvert mes quatre veines dans le son. J'ai ouvert mon temps et mon imagination. J'ai dû parfaire le sens et donner de la forme au fond. Pas partir dans le mauvais sens, comme tous ces rappeurs bidons. Comme tout le monde, je me fais du mauvais sang, la sueur coule sur mon front. Je m'en fous des mauvais trips sans ça, je fais mon truc à fond. Depuis que j'ai pris conscience que nos vies étaient dirigées par des cons, que tout est orchestré par défaut, ce monde est dirigé par des fous, que personne ne défie, même pas des foules. Y'a rien que le temps puisse défaire, les âmes et des villes. Moi je regarde des âmes tannées des villes et toutes ces âmes sensibles, sans but, à qui rien n'est accessible. Donc je m'accroche au hip-hop et à mes proches, car avec eux je me sens indivisible. Toujours au banc de la société, toujours en marge. Le peuple avance, mais pour lui jamais dommage. Seulement des cages, toujours plus grandes. On te cache ou on te vend, toi t'es pépère sur ton divan. Tu crois que je divague et que je mange, je te balance mon flot par vague. Tu le sens, sur le son, je m'évade toujours conscient. Car mes yeux sont ouverts, c'est la meilleure chose à faire. À tout le monde on peut pas plaire, tant pis mon art, je vais le parfaire. Le mic, mon arme, je te mets par terre. J'ai décidé d'exposer tous les faits, j'ai décidé, je peux pas m'en séparer. Ma conscience, c'est pareil, elle s'envole pas devant l'oseille. Quand ça vole pas ou pas de l'aile, je demande une aide. Entre nous deux temps, je demande une trêve. J'ai pris conscience que la violence faisait pas grève. C'est triste à dire, mais chaque jour, y'a trop de gens qui crèvent. Trop de martyrs et quand j'y pense, y'a plus de son entre mes lèvres.
Il est de Montpellier, c'est Jukebox, G-U-X-B-O-X. Il nous chantait Prise de conscience.
Avec son ami Zik.
Avec son ami Zik et sous une licence assez peu commune, ma foi.
Oui, ou qui permet de faire beaucoup de choses d'ailleurs, de l'usage non commercial, de l'usage commercial, toujours avec, sans l'autorisation de l'auteur, mais en respectant certaines règles. Tout ça, vous avez ça sur dogmazik.net et puis sur les différents liens des licences ou sur l'article de l'émission également.
Peut-être l'occasion...
c'était une prise de conscience...
Peut-être l'occasion de le recevoir dans les Libres Ma Musique pour qu'il nous parle de, de ce choix de licence. Tandis que le téléphone sonne, c'est indécent d'appeler Divergence alors qu'on est en direct. Vraiment, franchement, je me demande ce qu'ont les gens dans la tête. Mais
peut-être Mounir le connaît aussi.
Ah, peut-être le connaît-il.
C'est possible.
Quoi qu'il en soit, sans blague aucune, mais quand même, tout de même, on va passer à notre invité qui travaille au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, le LIRM, et qui pour autant ne va pas rentrer dans des histoires super complexes de geek, etc. Même si c'est quand même un cœur de métier. C'est Mathieu Lafourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Alors je sais Pascal que tu as eu l'occasion d'aller faire un petit saut et de jouer un petit peu avec, avec jeu de mots justement, eh bien parle-nous-en.
Alors jeu de mots déjà, faut aller sur le site, hein, jeudemotsmots.org, puis vous tombez sur une page d'accueil, alors il y a un petit explicatif, comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire, un terme va vous être présenté ainsi qu'une consigne relative à ce terme, pendant une période d'une minute vous devez entrer autant de propositions que possible conformément à la consigne, il s'agit en général de fournir des termes que vous associez librement au terme présenté, valider chaque proposition avec le bouton envoyer ou avec la touche entrée. D'autres joueurs vont être confrontés au même terme. Vous gagnerez des crédits lorsque les termes que vous avez donnés correspondent à ceux des autres joueurs. Plus un terme est précis, plus vous gagnerez de points, mais l'autre joueur y aura-t-il pensé? Voilà, donc il y a une charte de jeu de mots. Et puis après, donc on joue dessus. J'ai joué, j'ai pas beaucoup gagné, puisque j'ai mis 13 propositions sur le mot en question, parce qu'il y a le temps qui défile, évidemment, et puis c'est un petit peu une course contre la montre, parce qu'il faut trouver des idées, des évocations aux mots proposés.
Alors justement, peut-être avant d'aller plus loin dans la présentation de ce site, on va poser la question à Mathieu Lafourcade. J'imagine que derrière cette apparente légèreté, il y a quand même des préoccupations hautement, enfin en tout cas scientifiques, qui ont préparé finalement ce travail.
Oui, tout à fait. En fait, l'objet de notre travail au LIRM, une des équipes du laboratoire, c'est de faire du traitement de la langue, c'est-à-dire simplement essayer de faire des programmes qui vont analyser des textes et les comprendre le plus possible. Alors, il y a plein de guillemets autour de comprendre parce qu'on n'y est pas encore. Et quoi qu'il en soit, pour pouvoir faire ça, il ne s'agit pas simplement d'avoir des algorithmes évolués, super chouettes, il faut avoir des données qui sont bien sûr ce qu'on appelle lexical ou linguistique, sur les mots, savoir reconnaître un verbe, etc. Mais aussi, il faut des données de type connaissance du monde, savoir qu'un chat est un mammifère, qu'un chat peut ronronner, qu'un chat va typiquement manger des croquettes et se trouver sur le canapé, ce genre de choses. Et donc ça fait beaucoup de connaissances, et le problème c'est comment on va faire pour dire à la machine toutes ces choses-là. Alors il y a eu beaucoup de projets depuis 30 ans, 40 ans, aux États-Unis entre autres, et la plupart de ces projets avaient deux approches. Soit de construire ces données à la main, c'est-à-dire qu'on allait payer des gens pour les rentrer, donc en général des lexicographes, des spécialistes de différents domaines, ou alors l'autre approche, c'est de prendre des textes et essayer de faire des programmes qui vont extraire depuis les textes ces connaissances. Bon, la deuxième approche ne marche pas très bien parce qu'il faut déjà comprendre les textes pour correctement extraire ces connaissances, donc le problème se mord un peu la queue. Alors l'idée était de dire, est-ce qu'on pourrait le faire par les gens? Alors, sans les payer évidemment, sinon c'est la première solution. Et l'idée a été de dire, si on arrivait à le faire par des gens, qu'ils le fassent volontairement, et pour cela ça serait bien de le faire par des jeux, ça serait chouette. Et l'idée est venue de dire, quel type de jeu on pourrait mettre en place pour que des gens puissent rentrer de la connaissance et que la machine puisse la mémoriser? Alors quand j'étais petit, on jouait à un jeu très bête qui était de prendre un mot au hasard dans un dictionnaire. Donc on ouvrait le Larousse et on pointait un mot au hasard. Donc on disait à haute voix le mot et chacun des joueurs devait écrire durant une minute ou deux minutes ce à quoi ce mot lui faisait penser. Alors évidemment, en général, on choisissait un mot qu'on ne connaissait pas, un truc un peu compliqué. Et qu'est-ce que ça nous évoquait? Et donc au bout du temps imparti, chacun donnait ses réponses. Et les points étaient les suivants, c'est-à-dire que si j'avais été le seul à proposer cette chose-là, j'avais 0 point. Si on était 2, on avait 1/2 point. Si on était 3, 1/3 point, alors chacun à chaque fois, et puis 4. Donc il fallait arriver à être le plus original possible, c'est-à-dire que tout le monde n'ait pas pensé à la même chose. Mais évidemment, si je suis trop original, je suis le seul à penser à quelque chose et j'ai 0 point. Le principe de jeu de mots, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire du filtrage, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer toutes les réponses de chaque joueur, mais on va seulement récupérer les réponses qui sont en accord avec un autre joueur. Et de cette manière-là, on arrive à récupérer des données, alors sous une espèce de barbarisme, on appelle ça du consensus populaire. C'est-à-dire qu'on construit un dictionnaire qui n'est pas un dictionnaire de savants ou de lexicographes, mais un dictionnaire qui correspond plus à ce que les gens ont effectivement dans la tête par rapport aux différents termes.
Donc pour ce travail, du coup, j'imagine que vous avez aussi des linguistes à vos côtés ou pas?
Alors en fait, nous on est une équipe donc dans un laboratoire d'informaticiens. La plupart des membres de l'équipe ont fait donc des études d'informatique et de linguistique, puisqu'on est vraiment sur un domaine de recherche qui est à cheval sur les deux disciplines. Il y a du travail linguistique derrière. Du travail, bien sûr, à la fois ce qu'on appelle morphologique, c'est-à-dire savoir, par exemple, qu'est-ce qu'un verbe, un nom, un adverbe, un adjectif, ce genre de choses. du travail lexicographique, c'est-à-dire par exemple savoir quel type de fonction peut remplir un mot sémantiquement, par exemple qu'un animal peut faire un certain nombre de choses, qu'un objet inanimé peut faire d'autres choses, mais en général moins qu'un animal, etc., etc. Donc là, il y a effectivement un gros travail, mais qui, a priori, dans le jeu, n'est pas directement visible.
Mmh. Alors, finalement, le jeu est une espèce d'outil de collecte, finalement, qui, par le biais de son côté ludique, finalement, attire les contributeurs.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, plutôt que de faire un site contributif, qui en fait n'aurait sans doute pas eu de succès parce que contribuer pour des granularités toutes petites de connaissances, ce n'est pas du tout amusant. Ça serait complètement à l'opposé de Wikipédia où c'est des grosses granularités. Eh bien, là, c'est un jeu. Et en fait, les gens ne sont pas du tout obligés de savoir qu'on récupère l'information. Alors, on ne le cache pas, hein, c'est dans la charte, c'est tout à fait dit. Mais en fait, ça n'a strictement aucune importance. On récupère les associations de termes entre elles, ou par exemple des synonymes, des contraires, toutes ces informations-là qui sont, disons, particulièrement utiles pour ce qu'on va en faire après, à savoir de l'analyse de texte.
Mmh. L'avantage, c'est aussi que le public peut avoir accès à ces données lexicales, puisqu'elles sont sous licence Creative Commons.
Tout à fait. C'est-à-dire que le choix qu'on a adopté quant au devenir des données, c'était que elles étaient totalement libres d'accès. Alors, on a choisi la licence la moins restrictive, c'est-à-dire que tout le monde peut récupérer ces données et en faire ce que bon lui semble. Alors, je crois que, juste par politesse, ils doivent dire d'où ça vient, mais après, ils peuvent éventuellement donc, les modifier, les filtrer, les augmenter, les améliorer. On a beaucoup de gens qui les récupèrent, en fait. Il y a plusieurs manières de les récupérer. Il y a, en fait, on fait un fichier dump des données de manière à peu près mensuelle. Donc là, il y a l'intégralité des données. Et puis, sinon, on peut les récupérer item par item, c'est-à-dire terme par terme. Et ce dump mensuel aussi, il y a des gens qui ont tout récupéré parce que ce qui les intéresse, c'est de voir l'évolution. En fait, ça forme un grand graphe de termes et c'est de voir l'évolution de ce graphe au fur et à mesure que les gens jouent. Voilà. Mais on sait que donc il y a d'autres chercheurs qui les ont récupérés, bon, des particuliers. Il y a aussi des entreprises qui les ont récupérés. Mmh. Je ne citerai pas de nom.
Bah non.
Actuellement, donc sur la page d'information, actuellement au niveau statistique, il y a 229 822 termes qui sont présents dans la base. 106 323 ont été capturés, au moins une relation de type idée associée. Il reste encore 123 499 petits points à conquérir. Ouais,
Voilà. Donc un des chiffres qui n'est pas là, qui est dans l'accueil, parce que, sur la page d'accueil, c'est en fait on a capturé depuis le début du projet, donc on va dire une première version du développement finie, c'est-à-dire vers septembre 2007, donc en gros 3 ans et demi maintenant, on a récupéré un peu plus d'un million de relations. Mmh. Et en fait, alors ça c'est purement quantitatif, mais on est assez content parce que des projets de création de données, donc en général à la main, on fait pour beaucoup, beaucoup plus cher que ce projet-là, beaucoup moins de relations. Mmh.
Quel est le champ d'application finalement des connaissances qui vont ressortir de ce travail de filtrage, d'analyse, d'interprétation ?
Alors, le type d'application qu'on a, c'est d'une manière générale tous les types de traitements sur de la langue. Donc, nous, on s'intéresse surtout au texte, qui, de près ou de loin, vont avoir besoin de connaissances lexicales et connaissances du monde. Alors, à savoir de l'analyse de texte pour l'indexation. Donc, l'indexation, c'est ce que fait Google, c'est-à-dire analyser des textes pour être capable de les retrouver via un moteur de recherche. Ça peut être du résumé automatique. Donc là, on en a besoin parce qu'il faut être capable, dans le texte, d'analyser quelles sont les idées saillantes pour retenir que celles-là. Ça peut être, bien sûr, de la traduction automatique. Mmh. Alors, la traduction automatique est un domaine qui est très sensible à la connaissance parce qu'il faut vraiment, dans beaucoup de cas, pas tous, mais beaucoup de cas, être capable de comprendre ce qui est dit pour pouvoir le retranscrire correctement dans la langue. Dans la langue cible, c'est-à-dire par exemple du français vers l'anglais. Voir ce qui n'est pas dit, ce qui est sous-entendu. Alors un exemple tout bête, c'est ce qu'on appelle les fonctions lexicales. Par exemple, Si vous voulez dire en français que vous avez beaucoup de fièvre, eh bien, vous allez dire par exemple que vous avez une forte fièvre, une grosse fièvre ou une fièvre de cheval. Si vous essayez de traduire dans n'importe lequel de ces trois cas littéralement en anglais, vous allez aboutir à une traduction désastreuse. Donc il faut que le système automatiquement comprenne que grosse fièvre, ça veut dire beaucoup de fièvre et que ça se traduira sans doute en anglais par high fever, donc littéralement haute fièvre, mais si on traduit grosse par fat fever, eh bien n'importe quel locuteur anglais rigolera doucement. Donc voilà, là on a besoin de compréhension, d'une forme de compréhension. Je mets à nouveau plein de guillemets hein, autour, pour pouvoir avoir des applications de traitement de la langue qui puissent être convaincantes et fonctionner correctement.
C'est vrai que c'est un champ qui est assez actif, les traducteurs notamment. C'est vrai que dans la traduction, il y a toute la partie, quand on est obligé d'aller ouvrir un dictionnaire pour trouver un mot, ben, c'est vrai que ça va plus vite avec un ordinateur et que c'est toujours mieux avec des données libres et des logiciels aussi. Mais c'est vrai que de plus en plus, et on le voit dans les manuels des appareils électroménagers qui nous sont tout à fait indispensables, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on se rend compte que la traduction automatisée existe depuis déjà un certain temps, même si le résultat est parfois totalement décevant. Mais qui lit les manuels hein, c'est...
Alors, il y a une petite anecdote de manuel, mais de maintenance d'avion, où un replace en anglais étant ambigu entre remplacer et replacer, avait été mal traduit et a abouti à un crash. C'est-à-dire que la personne qui faisait la maintenance a replacé un filtre à huile, je crois, au lieu de le remplacer. Et ça, c'était... Enfin, alors, on ne sait pas si c'est des légendes urbaines ou pas, mais en tout cas, c'est un exemple de traduction malheureuse qui a pu avoir des conséquences autres que juste une histoire d'aspirateur.
Et ce projet, il va exister encore pendant des années ? Ou est-ce que, quelque part, vous avez fixé un objectif qui peut être atteint ? Ou est-ce que l'étude peut continuer ad libitum ?
Elle va continuer autant qu'on le pourra, il n'y a absolument aucun doute. Les raisons, c'est d'abord que les connaissances, le vocabulaire évoluent. Alors, évoluent, quand je dis les connaissances, ce n'est pas tant des connaissances scientifiques, mais c'est par exemple des connaissances d'actualité, donc sur des personnes, des événements, des lieux. Donc, ces informations-là, on en a besoin pour analyser des textes, ne serait-ce que justement des textes d'actualité. A priori, ce projet va perdurer autant que possible. Et l'ambition qu'on aimerait avoir, ça serait en gros d'avoir en moyenne une centaine de relations par terme. Donc on était à 220 000 termes à peu près. Donc ça voudrait dire à peu près 20 millions de relations. Donc on en est encore loin puisque là on est à un petit peu plus d'un million.
Donc voilà, ce serait à peu près le seuil à partir duquel, on va dire, vous seriez satisfait.
Voilà, on pourrait estimer qu'il y aurait une assez bonne... représentation, disons, sémantique ou une couverture sémantique suffisante en moyenne pour l'ensemble des termes. Mais il y aura de toute façon toujours des termes qui seront insuffisamment représentés parce que, eh ben, vous savez, c'est comme les dictionnaires Larousse et Robert, même si avec ce jeu-là, on est beaucoup plus réactif, eh ben, on sera toujours en décalage léger avec l'actualité. Donc, entre, par exemple, récemment dans le jeu, au hasard, le terme Benghazi est entré dans le jeu, bon ben... Il serait sans doute pas rentré si l'actualité avait été différente.
Absolument.
Oui, on voit toujours sur la page d'information que ça commençait en 2007 et que la date de fin est 2050.
Oui, donc ça répond voilà. Aussi à la question. Et ben, d'ici là, j'imagine qu'il y en aurait eu plein des jeux de mots. Peut-être on fait une petite pause musicale, Pascal, avant de passer à la suite.
Oui. Toujours avec
Jukebox Montpellierin.
Oui, notre rappeur montpelliérain Espoir Emmuré avec en featuring Kelaiz, Nivek et Zik toujours. Et c'est toujours en open music licence couleur green.
L'espoir est emmuré, ils ont gravé dessus. Les pieds griffés au sol, ressent l'amertume. Je me soigne à la clé de sol, sur des 16 mesures. Je m'isole,
et devant papier,
je compte mes blessures.
Ma réflexion n'a plus d'air, voilà ce que l'avenir m'apporte. Une simple bataille, une sale guerre que personne ne remporte. Voilà ce qu'on récolte, à semer des certitudes. Si la drogue tue, c'est par le manque de vos sales thunes. Attarde plus, si tu veux rire, mieux vaut te défenestrer. Mon espoir a disparu, dites-moi s'il est séquestré. Je le sens sale, pourri par vos rêves, gavé d'oseille, par votre sale idéal. Allez, dépasse ce que tu penses, ce que tu ressens. À n'être qu'un pion dans la masse, tu comptes jouer l'innocent. Non, alors sens, vit en toi qui t'envahit. Ta vision devient terne et ton âme grise. La pression nous enferme et des larmes glissent sur la paume. Ma prose est creuse, lâche des sentiments à chrome. Retrace des images affreuses, je n'accuse personne. Si mon espoir doit me laisser seul quand mon heure sonne. Moi, je pleure sous la pluie, c'est moins tricard. Rares sont les moments où ça va. Je suis pas du genre à sourire devant les gens, non. Pour moi l'effort c'est d'aller faire la java. À l'heure où tout le monde se plaint, je crains que personne ne se tend plus la main. Car les esprits craquent. On fait aller quand les murs s'effondrent. Et on fonce tête baissée quand le quotidien nous plombe. Tu peux voir ça comme la complainte de l'homme occidental. Au final on a tous à redire même sans crever la dalle. Moi c'est l'horizon de béton qui m'a pété le caisson. Et loin de tout ça je me pose toujours les mêmes putains de questions. Ils enferment, ils endorment, ils dévorent. Et ils s'étonnent quand ça crame dehors. Un animal en cage, il pète un cap, tu peux rien y faire. Et souviens-toi qu'avec le feu, on reste des mammifères. L'espoir est emmuré, ils ont gravé dessus.
Les pieds griffés au sol, ressent l'amertume.
Je me soigne à la clé de sol, sur des 16 mesures.
Je m'isole,
et devant papier,
je compte mes blessures.
On dit l'espoir fait vivre, ici tout le monde est mort. D'ennui, de coups du sort, pas beaucoup qui s'en sortent. À mon avis, on est tous dans la même galère. L'argent dirige le monde, ça on a même pas l'air. Et toi tu te plains de quoi? De ton maigre salaire. Ta putain de vie précaire, l'espoir se barre en couille devant monsieur le commissaire. Quand il t'arrête pour les quelques barrettes que ta vie sert. Emmuré pour 4 ans dans la justice et ses viscères. C'est sévère, c'est sur ces vers que je dénonce ce système. Sur ces lettres tu pourras lire tes dédicaces à tous ceux que j'aime. En vrai c'est tout ce que t'as, car ce monde est une immense plaie. Trop aride pour que les gens pensent à l'entraide. J'ai besoin d'un entraque, je fais ma lettre au président. Je la remplis d'anthrax. T'invite pas à marcher sur mes traces. Je t'avoue que le poids de ma condition m'écrase.
Et plutôt fort bien produit, la musique de Jukebox Montpelliérain, rappeur de son état, comme vous l'aurez compris. C'était avec Espoir Emmuré, avec Kill Eyes, Nivek et Zik en featuring, et c'est sous Open Music License Green. Vert comme l'espoir, vert aussi comme, on va dire, la couleur de... J'allais dire la couleur générale de jeu de mots. Alors c'est jeuxdemots.org, hein, le nom de domaine, même si on est rebasculé automatiquement sur l'IRM.fr. Alors justement, ça m'a amené à une question justement sur le laboratoire d'informatique ou robotique et de microélectronique de Montpellier. Justement, la place du logiciel libre dans ce projet et plus généralement dans ce laboratoire.
Oula, ça c'est une vaste question.
Ah oui, oui, oui.
Et qui est un peu délicate. Alors, il y a... Il y a beaucoup de thésards qui, quand c'est possible, mettent les sources de ce qu'ils produisent, quoi. Enfin, donc pour ceux surtout en informatique, dans le libre, bon, sur des forums, sur enfin des dépôts, etc. Alors je dis bien quand c'est possible, parce que ça dépend bien sûr des modalités de leur contrat de thèse. Par exemple, s'ils sont en bourse chiffre avec des entreprises, en général, ça, c'est pas possible, ça ne passe pas. S'ils sont en contrat avec, par exemple, la DGA, ministère de l'Armement, évidemment, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de fois où c'est pas possible, mais des fois, on trouve quand même, parmi les thésards, beaucoup de geeks, on peut le dire, et qui sont à fond sur le logiciel libre. Vous en avez reçu ici même il y a quelques temps.
Et assez régulièrement, d'ailleurs.
Voilà. Donc oui, il y en a. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas encore complètement dans la culture. Bon, aussi en même temps, souvent ce qui est développé au sein des thèses ou des projets sont vraiment des prototypes. Ça a rarement, très rarement vocation à être des produits. Quand je dis produits, c'est pas au sens commercial, mais au sens d'être utilisable par tout un chacun. Donc souvent, ceci explique cela. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait en avoir plus. Mais
après, si vous avez un devoir de réserve, on comprendra. mais c'est vrai que, est-ce que après, sur le laboratoire en lui-même, les postes de travail bureautiques, etc., est-ce que on y retrouve une politique un petit peu pro logiciel libre ou est-ce qu'on est
oui, mais qui est surtout motivé pour des raisons économiques, c'est-à-dire par exemple, on peut être susceptible,
c'est souvent la raison,
voilà, ouais, de passer à OpenOffice pour pas avoir à acheter des quantités des licences, folles de licences d'un autre vendeur, voilà. Donc c'est essentiellement ça les raisons. Mais pour ce qui est des produits de recherche des labos, c'est plus délicat et à mon sens, à part dans les mentalités des gens, mais au niveau global, ça ne va pas tellement dans le bon sens parce que par exemple avec la loi LRU sur les universités, on nous encourage plutôt à déposer des brevets dans tous les sens dès qu'on invente l'autre qui aide, quoi. Donc,
oui, d'autant que le brevet logiciel n'ayant toujours pas court en Europe, voilà. C'est hautement politique justement. J'imagine que ça fait débat dans un laboratoire aussi spécifique que le LIRM. J'imagine que ça doit être un sujet de discussion de temps en temps, parce qu'on le souligne souvent dans Divergence Numérique, derrière l'aspect technologique et purement informatique, etc., vu que le code, c'est quand même, ça peut s'imprimer sur du papier, derrière tout ça, il y a quand même des débats beaucoup plus sociétaux, philosophiques et fondamentaux autour de questions de propriété intellectuelle, de répartition de la connaissance, d'accès au savoir, etc. J'imagine que c'est des discussions qui animent un petit peu la pause café au LIRM.
C'est un euphémisme, on s'engueule franchement par moments là-dessus, surtout dans la mesure où on est un laboratoire de recherche publique, donc avec des fonds publics, et que
il y a l'argent public,
l'argent public qui va devenir de l'argent privé très très vite. Et, enfin bon, ça pose des problèmes, donc, mais bon, le débat n'est pas du tout clos. C'est pas perdu en tout cas.
Très bien.
On disait en antenne que les joueurs sur jeuxdemots.org avaient sollicité qu'il y ait un classement et que finalement il y a certains qui sont accros à ce jeu.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que bon, parmi les joueurs qui s'inscrivent, qui découvrent jeux de mots d'une manière ou d'une autre, bouche à oreille ou via des sites, donc il y a ceux qui viennent et qui aiment bien le jeu et qui, en gros, la moyenne c'est 3 semaines, mais il semblerait que ça soit une moyenne correspondant à l'ensemble des jeux qu'on peut trouver en ligne. C'est au bout de 3 semaines on se lasse et on passe à autre chose. Bon, bien sûr, il y a ceux qui vont jouer 2 fois et puis qui trouvent ça nul, ça leur convient pas, et puis il y a ceux qui sont complètement accros. Alors parmi les plus accros, il y en a qui ont depuis 2-3 ans cumulé plus de 600 heures de jeu à raison de à peu près 1 minute la partie, donc vous faites la division, ça fait un certain nombre de parties. Et en effet, l'histoire du classement, pourquoi on a mis un classement? Au départ, il n'y avait pas du tout de classement dans ce jeu, on n'y avait pas pensé, et puis c'est des joueurs qui nous ont dit « mettez-nous un classement ». Et d'une manière générale, les joueurs sont très demandeurs de tout ce qui est valorisant pour leur ego et de manière un peu... justement sociétal, c'est-à-dire ils font des groupes, etc., ils peuvent se comparer aux autres. Donc ils veulent des classements, ils veulent être notés, c'est-à-dire qu'en effet ils ont des scores, etc. Donc ça on aurait pu... c'était un peu surprenant, mais bon voilà, ils aiment bien ça. Et d'une manière générale, ils ont demandé aussi à ce qu'ils puissent s'offrir entre eux des cadeaux. Donc les cadeaux, c'est la possibilité de choisir un mot sur lequel un autre joueur va jouer. Et pour l'anecdote, les gens... ont tendance, par certains en tout cas, à discuter, voire se séduire en s'envoyant des cadeaux. Par exemple, ça peut être rendez-vous mercredi et soir, voilà, 3 cadeaux de suite. Et alors, il semblerait, à nouveau, est-ce une légende urbaine ou pas, qu'il y ait au moins un couple qui soit formé via jeu de mots. On ne sait pas s'il a duré. Mais...
Il y a des affinités comme ça qui se créent.
Comme quoi les jeux de mots mènent au jeu de main parfois.
Bah, des jeux en ligne, des accros, et puis du social finalement, des réseaux sociaux qui se montent autour d'un même thème, tout simplement, peut-être.
Tout à fait.
Voilà.
Donc on ne saurait trop vous rappeler que c'est jeu de mots, comme son nom l'indique, point au pluriel, .org. Et puis
jouer.
Vous avez compris qu'il y a encore jusqu'à 2050 pour jouer. Donc pas d'inquiétude, hein, c'est pas comme sur Facebook ou que sais-je encore, on sait pas quand ça va tomber. Mais en tout cas, là, jeu de mots, c'est parti pour durer. On va peut-être doucettement passer, il nous reste à peu près 10 minutes. À l'agenda du libre.
En tout cas, pour avoir y joué quelques minutes, puisque je suis pas encore un accro à jeu de mots, mais c'est encore un jeu qui fait travailler en tout cas les neurones et la réflexion mentale, parce que les associations d'idées, puis
c'est pas évident. Ouais.
C'est assez large. Hein. Moi, j'étais parti sur, c'était cramé par exemple. On peut même jouer, hein, puisqu'il nous reste un peu de temps, autant.
Moi, je suis tombé sur événement dans le temps imparti. J'ai sorti trois mots.
Voilà, donc Arceau qui m'est proposé. Voilà, il me reste 60 secondes. Donc Arceau, qu'est-ce que c'est ou quelle est l'idée associée? Par exemple, un cercle, peut-être. Oh, je suis peut-être
ou
mauvais.
Montpellier ou.
Oui, Montpellier, les arceaux.
Bah oui.
On joue à plusieurs.
Ou sécurité ou.
Arceau de sécurité. Donc le but, c'est d'en donner un maximum en 37 secondes. Là, j'en ai déjà donné 3. Faut en trouver. Le temps défile. On peut acheter du temps en cliquant sur le petit bouton puisque j'ai des crédits. Donc j'achète combien, 30 secondes supplémentaires si je sens que je suis un petit peu limite, etc. C'est assez prenant quand même au bout d'un moment. Hein.
Et quand même, quelque part, beaucoup plus intellectuellement stimulant qu'un shoot them up ou que sais-je encore.
C'est pas pareil. Il y a une petite mouche qui se balade. Hein. Il faut des fois cliquer dessus.
C'est vrai. J'ai remarqué qu'il y avait une petite
mouche. Le buzz mouche. En tout cas, c'est très très ludique, évidemment. Très ludique et moi j'aime bien. Ça, c'est tant qu'on tape pas sur les autres, ça va. Ah, j'ai perdu. Des événements peut-être.
Vous n'avez pas l'image, mais je vous assure que c'est Tordant, Pascal Relier, qui joue à jeu de mots dans le studio avec son casque sur les oreilles. On va remercier Mathieu Lafourcade. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Montpellier 2, au laboratoire du LIRM. Et puis, on aura peut-être l'occasion de vous réinviter pour aborder d'autres thématiques, allez savoir. Et avant de passer à l'agenda du libre, Pascal, on écoute un nouveau titre de notre musicien du soir, Jukebox, le Montpelliérain.
Avec Pauvre Soleil, avec quelques amis dessus, puisqu'il y a Honer, Comer, K-Lies, Jukebox, et c'est toujours en Open Music License Green.
C'est la piscine du quartier.
Voilà où les jeunes se baignent quand ils ne peuvent pas aller à Marseille, au bord de la mer. Les mecs sont obligés de se baigner là, c'est...
Bienvenue à Crasse sur place, j'ai vu comme les ordures sous le soleil. On m'écrase sur place, la voix sur éveil jusqu'au sommeil. On observe les étoiles, on y croit tant qu'on rêvera. Repère les étages, mec, on est là et on y crèvera. Les premiers seront les derniers, c'est ce qu'on me dit depuis tout petit. J'ai l'impression d'être dernier, bref, qu'on m'oublie, peut-être je suis maudit. Un sol sec, taré, nous les flics observent la nuit. Quand les loquides s'élèvent, arrivent, ouais, c'est logique, c'est là. Et j'entends des coups de feu et les ambulances ne font que passer. C'est douteux, ces jeunes dans la rue complètement blasés. Je trace ma route dans le béton, dans cette misère, je médite. Faudra que ça roule sans pétanque, que mes parents soient fiers de mes disques. Ici tout je sors un coup de poker comme coma. Je vais être connu faire des rimes comme Baudelaire. Donc on croise les doigts, on croit toujours au changement. Sans baisser les bras, on se doit de poser franchement.
Pauvre soleil, je croyais mon île réelle. J'ai posé bagages, je lève les yeux au ciel. Les orteils dans le sable, avec mes doigts retrace certaines allées de la capitale. Donne-moi des nuages pour ressemblance. Glisse sur mes images pour mon ambiance. Mon immeuble, son béton me manque. Mon humeur est béton pour que je rentre.
Vas-y, viens, pète ma gueule.
Quelques phrases pour me débarrasser de toutes mes pensées en train de m'embarrasser. Même si ma belle vient m'embrasser, c'est le bon temps ici, on vient enlacer. C'est trop dur, trop d'air pur. Trop de verdure et de couleurs, tous. Trop de verdure et de douleurs, j'tousse.
Arrête,
c'est comme ça. Oh, petit joueur.
Mais c'est quand? On rentre quand? Eh, vas-y, va chercher la voiture.
J'ai une belle vue sur Rio.
la lune éclaire, ce n'est que le reflet de la misère. Les bronzés n'ont pas le sourire, assis à regarder la mer. Belle femme, belle plage, paradisiaque. Ce paradis est en enfer, cet enfer. Une prison qui pousse à franchir la mer, à venir coûter le salaire pour un maigre salaire. Exploiter sous pression pour enrichir les mêmes qui sans limite interviennent pour faire monter la tension et pousser à la haine. Voilà grande peine à tous les gîtés de la terre qui se remplissent les poches en tirant des larmes de ta misère. Remercie les mêmes lors du Paris-Dakar qui donnent des médailles à ceux qui mériteraient du placard. Plus tu crois un acteur et plus tu es ce produit. Un peu du système car il fait sombre aujourd'hui. Pas de pluie mais des larmes sur son coin de terre. Par le lit du soleil qui rend un pays dans sa misère.
Voilà, la réalité, elle revient toujours. Ça, c'est le côté obscur.
Aurons-nous le temps d'écouter le dernier titre de Jukebox ? Ça dépendra de notre célérité à vous détailler l'agenda du libre de la semaine à venir.
Encore très chargé. Hein.
Encore très chargé.
On écoutait Pauvre Soleil de oui. Jukebox.
Voilà, et c'est un Montpelliérain. On démarre tout de suite avec demain, ce n'est pas une blague.
Aujourd'hui, oui. Si vous nous écoutez encore et qu'on est jeudi 31 avril, puisqu'on est rediffusé, multidiffusé, etc., c'est les last jeudis à l'envers Bodega, place Jean Jaurès à Montpellier, le rendez-vous des libristes.
Ah, et qui déménage régulièrement.
Oui, alors là, on va essayer de se poser sur un... Alors
place est... Jean Jaurès, la terrasse la plus hype de Montpellier. Je ne sais pas si les geeks vont faire un malheur. Surprise.
Surprise. En tout cas, c'est une sorte de volonté de la ville d'avoir des cafés à thème comme ça. Mais nous, bon, si ça ne nous plaît pas, on va ailleurs. Voilà, c'est...
Et tout près de nous, demain, il y aura les points libres à Montpellier et les ateliers libres à Téran.
Tout faux, le point libre est en fait décalé puisqu'il y a quelque chose au Kawanga hybride. Et donc c'est le 8 avril au Kawanga.
Nom d'un petit bonhomme, agendadulibre.org n'était pas à jour, ce qui arrive très rarement, je vous rassure tout de suite. Et sinon, pour après-demain, si vous êtes à Castelnau-le-Lez...
Juste vendredi 1er avril, aura lieu à la cantine à Toulouse, si vous nous écoutez ou n'êtes écouté, un bar camp. Alors, qu'est-ce qu'un bar camp ? J'ai des petites notes, voilà.
C'est un camp autour d'un bar.
Ah tiens, j'ai pas mes notes de bas de page dans l'article. C'est intéressant quand il est publié. Tiens. Organisé par Astrium Géo Information Service sur la cartographie communautaire, un accès libre et une bonne occasion de rencontrer aussi bien des contributeurs d'OpenStreetMap, donc de la cartographie collaborative, que des institutionnels et professionnels de l'information géographique intéressés par la cartographie communautaire, notamment curieux donc de son fonctionnement et de son potentiel. Voilà, donc c'est à la cantine à Toulouse.
C'est à Toulouse, pour ceux qui nous écoutent, à Toulouse, ou en tout cas sur Internet. Et puis ce 2 avril, eh bien, si vous n'êtes pas à Anglais, à Antibes, à La Mézière, à Lyon, à Nantes, à Paris, à Quimper, à Saint-Germain-de-Morin ou à Villeneuve-sur-Lot, vous pourrez aller à Castelnau-le-Lez, c'est vraiment pas loin d'ici.
À la MJC, oui.
À la MJC pour une install partie.
On y sort, hein.
Et puis voilà, et puis on y sera. Il y en aura aussi un rendez-vous le 5, toujours à Castelnau-le-Lez, avec la section GNU Linux pour les ateliers libres. Rendez-vous régulier, toujours les ateliers libres qui seront aussi le 5 à Téran.
Supinfocom Montréal à Montréal, donc une Ubuntu Global Jam. C'est un événement pour l'Ubuntu Global Jam, donc ce week-end à Montréal. Et c'est qu'est-ce qu'un Global Jam ? Je vous invite à aller sur agendadulibre.qc.ca. Voilà, c'est se coordonne pour donner un grand coup pour identifier, trier, potentiellement régler des bugs découverts dans la version couramment en développement. Voilà.
Sinon, il y aura un atelier GIMP à Québec ce 5 avril et puis un Linux Meetup à Montréal. Mais comme c'est un petit peu loin de nous, on vous le dit pour ceux qui nous écoutent d'un petit peu plus loin, en espérant un jour pouvoir aller faire un Linux Meetup.
Ou à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, ça c'est en Belgique, la foire du logiciel libre, ce sera le 6 avril.
Et c'est ainsi que nous allons refermer cette émission avec un tout petit extrait de Jukebox pour se quitter, car c'est l'heure, Pascal. Nous débordons, oui, c'est insupportable.
C'est l'heure, et on vous dit donc merci, comme le dit Jukebox, avec Daddy Clark. Merci à vous de nous écouter sur les différentes fréquences de vos radios respectives, Divergence, Radio Escapade, c'est KIA.
Et soyez libres, bonne semaine.
Moi je crois français. GG. Jukebox, Daddy Clark.
Aïe,
Yo, yo. Quand la zig m'emporte, les notes me transportent. Imagine même pas ce que ça me rapporte. Je survis à Babylone, mégalo, j'ai besoin de ma dose. Toxico du son sur chaque scud, j'y prends ma leçon. Comme une part dans la gueule, l'escrète fait chauffer les bas-fonds du son. Ça sert qui réveille la foule comme un klaxon. Activiste, le rap m'apprend la vie, je suis plus mature. Grâce à certains artistes, j'ai appris que l'État assassine et que l'esclavage fait encore rage aujourd'hui. Le double S dans les baffes, du soir au matin. La forme secrète en examen, son terrain. Comme la clica, j'ai voulu tester. Le rap contact, du foot du flow, c'était le rap comeback. Comme quoi c'était simple, le rap c'est la liaison de la rue aux enceintes. Alors viens pas pourrir ce que tu connais pas. Critique pas, j'ai l'intention d'apprendre si tu connais pas. Non, si tu connais pas. Oh, de la old à la new school, le rap est assez sicko, traverse les modes des antipodes. Oh, c'est le clairon qui sonne, la révolution sonore, héritier du punk et ses paroles. Oh, de la old à la new school, le rap est assez sicko, traverse les modes des antipodes. Oh, c'est le clairon qui sonne, la révolution sonore, héritier du punk et ses paroles. J'équilibre un peu mes sens en écoutant du BB King. Ma poésie, je l'ai trouvée dans les abîmes. Le rap donne un sens à mon avenir. Je suis sûr de vous représenter jusqu'à la fin de ma vie. Conscient, grâce à ça j'ai compris. Message, laisse pas traîner ton fils dans la rue. Sur les trottoirs ça glisse, malgré les rumeurs. Certains au fond les vrais, l'état veut nous faire taire. Merci à mes d'avoir milité et combattu avec des armes sur le papier. Car à vrai dire, la seule façon de se faire entendre, c'est de crier et de rechercher le MIC. Comme l'a fait Mafia Dressé, j'allais oublier, un grand respect à EAST. La rime qui s'impose, un grand coup kick sur la prod. De l'ego trip du mélancolique, y'avait de tout dans ta prose. Plus tard j'ai compris qu'il fallait du cran. Le micro je l'ai pris, et pas pour en vivre, mais prendre les devants. Mais prendre les devants. Oh, de la old à la new school, le rap est assez sicko, traverse les modes des antipodes. Oh, c'est le clairon qui sonne, la révolution sonore, héritier du punk et ses paroles. Oh, de la old à la new school, le rap est assez sicko.